Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Mais ce que je vais vous dire ce matin, dans peut-être la petite heure, on verra bien, ça va peut-être pas vous faire sourire. Vous allez peut-être pas faire des incantations, Alléluia, gloire au Seigneur. C'est peut-être pas une étude de louange que je vais vous transmettre ce matin, mais c'est un mot nécessaire. Et si le Seigneur permet de vous le dire, c'est parce que je pense que c'est nécessaire. Je vais vous parler de la calomnie, des cancans, des ragots, le mal que ça fait dans les groupes, dans les églises, dans les missions. Et c'est important ça, mes frères. C'est une des vérités de la Bible aussi, il ne faut pas l'oublier. N'est-ce pas la Bible qui dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, si ce n'est que des paroles de sagesse encore ou de grâce. » D'accord ? Est-ce que l'apôtre Paul n'a-t-il pas écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise ? Ça serait merveilleux, soyons déjà des anges. Alors, sans accuser, il est bien clair, sans accuser, c'est pour prévenir que je parle ce matin. Je n'ai pas eu une révélation spéciale. Dieu ne m'a pas dit, tu diras ça à mon peuple. Ça m'arrive d'avoir de temps en temps des petites lumières, moi aussi. Elles ne sont pas trop grosses, mais une petite lumière de Jésus, ça vaut 10 prédications faites à la main. Mais disons qu'éventuellement, là, c'est une pensée divine. Et j'aimerais vous transmettre ça. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez, une parole de Dieu qui est importante, s'il vous plaît, et qui est notée dans la parole du Seigneur, bien sûr, et que nous allons lire ensemble. Je voudrais prendre le Lévitique tout de suite. C'est un mot de Dieu. Je vais vous dire pourquoi je vais vous parler de ça. Il y a quelques pasteurs parmi nous qui ont déjà eu note parce qu'on a discuté avec les pasteurs. Je me trouvais dans une des églises de France. Je ne citerai pas, c'est pas la peine. Enfin, peu importe. Et puis, il y avait quelques zizanies, quelques conflits, quelques soucis. Et puis les pasteurs m'ont demandé d'intervenir, de dire un petit mot. J'ai rien trouvé de mieux de dire, eh bien, je vais vous parler de la calomnie ce matin, mes frères. Mais nous, entre nous, prédicateurs. Je vous dis ça très simplement, mes collègues. Hein. Et puis c'est vrai que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu parler de cela au peuple. C'était tellement intime pour nous, serviteurs de Dieu, parce qu'on peut se dire nos vérités, on peut les dire ensemble, nos vérités aussi à nous. Hein, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de messe noire chez nous. Tout n'est pas fait dans un sac, tout est au clair dans la mission. Il y en a qui parlent beaucoup, mais ils parlent pour rien dire. De A jusqu'à Z, on pouvait vérifier tout. Mais je pensais quand même que des choses intimes comme ça pouvaient se parler entre prédicateurs. Ça aurait pu être choquant que des chrétiens ou quelques chrétiennes écoutent des mots peut-être désagréables. Parce que des fois l'abîme nous demande des mots qui nous plaît pas trop. Et puis lorsque j'ai partagé cette idée avec les pasteurs, nous étions, je sais pas, je me rappelle plus, les pasteurs sont là, ils peuvent le dire, on était nous. Trentaine, quarantaine, je me rappelle plus. Les responsables de l'église, les pasteurs de l'église, ils m'ont dit, frère Jimmy, tu ne pourrais pas prêcher ça dimanche à notre assemblée, parce que notre église a besoin d'écouter ça. J'ai été étonné de ce que ces pasteurs m'ont demandé de prêcher ça à l'église. Ça voulait dire que dans l'église, il y avait des besoins, et qu'il fallait que les chrétiens écoutent ça. Ben, j'ai dit, frère, si vous pensez que c'est bien, moi je veux bien, mais ça ne va pas créer une polémique, ça ne va pas créer une difficulté. Ils m'ont dit, non frère, c'est nécessaire que notre assemblée écoute ça. Alors j'ai accepté la demande de mes frères pasteurs. Et puis des frères d'autres églises de la région sont venus. Et puis, pardonnez-moi, lorsqu'ils étaient là aussi présents à l'étude des pasteurs, puis à la rencontre du dimanche, d'autres frères, et ces frères m'ont dit, frère, ça te gêne pas de venir prêcher ça dans notre assemblée à nous là-bas, parce que nous aussi on en a besoin. Alors je dis, si cette église en a besoin, si l'autre assemblée en a besoin, ça m'étonnerait pas que notre mission n'en a pas besoin. Comprenez ça? Il n'y a pas de raison que trois églises aient besoin d'écouter un mot de Dieu et que vous n'avez pas besoin de l'écouter, vous. Si vous êtes des chrétiens, ben vous avez besoin d'écouter les mots de Dieu. La Bible nous dit souvent, et c'est un des serviteurs de Dieu qui a dit, j'ai une parole dure à te dire. Les paroles même dures de Dieu sont merveilleuses. Les paroles même difficiles de Dieu sont toujours pleines de grâce. et sont des paroles de bénédiction. Lorsque Dieu parle, même si c'est pour nous reprendre, c'est merveilleux. Ce qui est grave, c'est comme Dieu parle plus. Alors on n'écoute pas de réprimande. Mais si Dieu parle plus, c'est ça que c'est grave. Ça veut dire que le contact est coupé et qu'il n'y a plus de rapport avec lui. Je vais demander pardon à la majorité des hommes présents. Nos parents dans la chair nous gronder, voire nous corriger. Est-ce qu'on ne voudrait pas encore écouter leur voix aujourd'hui en nous grondant, en nous corrigeant? Ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui, maintenant. Mais même si ce serait pour nous corriger ou nous gronder, nous aimerions écouter la voix de nos bien-aimés. Eh bien, ne refusons pas la voix de Dieu. Ça veut dire que s'il nous parle, même pour nous gronder, ça veut dire que nous sommes ses enfants. Parce que Dieu reprend celui qu'il aime. Il châtie ses fils, dit la Bible, et corrige. C'est important que nous comprenions cela ce matin. Alors nous allons lire, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas trop exagérer. Je voudrais lire le verset du Lévitique, s'il vous plaît. Le chapitre 19. Et on commencera au verset 15. Lévitique 19, 15. Je pense que ça mériterait... on n'aura peut-être pas le temps. Je sais qu'il y a... On m'a fait la remarque qu'il faudrait terminer à telle heure. C'est vrai, il faut respecter l'horaire. Il y a nos sœurs qui ont peut-être encore quelques maris inconvertis et qui, eux, n'attendent pas la prière. Ils veulent qu'à midi, le plat soit sur la table. Ce qui me paraît normal, mes sœurs. Et c'est logique, en plus. Il ne faut pas, sous le prétexte de la prière, que vos maris disent « Ma femme, elle est cinglée, elle ne me donne plus à manger ». Il faut que nous respections les horaires et les conditions de la vie familiale aussi. Il faut rester un témoignage. Pardonnez-moi de dire ça, mes sœurs. C'est bien de prier, c'est bien de chanter. Mais si vous avez un mari, vous devez faire ce que vous devez faire par rapport à la vie. Alors je sais qu'une chrétienne, un chrétien peut mieux le comprendre. Il faut donc que nous puissions rester dans l'équilibre. Alors on va essayer, si je peux, de terminer dans l'horaire. Si je peux. J'ai bien dit si je peux. Alors on va essayer. Lévitique 19,15, s'il vous plaît. Nous lisons ce verset de la Bible. Et je pense que vous allez faire attention à la parole de Dieu qui nous est présentée ce matin. Lévitique 19, et à partir du verset 15. Écoutez le texte. « Tu ne commettras point d'iniquité. » Ça veut dire péché. Iniquité, c'est un dérivé de péché. C'est péché. Iniquité, c'est péché dans la Bible. « Tu ne commettras donc point de péché dans tes jugements. » Lorsque tu prononceras un jugement, ben, il ne faudra pas que ce soit un péché que tu prononces. Il faut donc que justice soit faite dans tes prononciations. Et pas seulement ton point de vue, mais l'équilibre de la parole de Dieu. On parle trop souvent avec ce qu'anime notre esprit, en dehors de la règle de l'écriture. Alors tu ne commettras point de péché dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. C'est curieux ce que dit. En général, on aurait dit, peut-être nous, et il le dit après, tu ne feras pas attention, tu ne fermeras pas les yeux devant le riche. En général, c'est le slogan plus naturel. La Bible est tellement véritable et tellement juste qu'elle dit, même le pauvre ne doit pas te faire fermer les yeux. Et si on a besoin de dire un mot, il faut le dire aux pauvres comme aux riches. En général, la tendance est plus accentuée sur le côté. Je pense que vous comprenez ça. Tu n'auras point égard à l'apparence du pauvre et tu ne favoriseras pas la personne du grand. Ah, là, c'est marqué aussi. Équité, équilibre dans nos prononciations. Il y a un géant qui arrive devant nous, il a du poil comme ça sur lui, pardonnez-moi, eh bien, si on doit lui dire ça va pas, il faut lui dire ça va pas, et pas dire celui-là, il est un peu trop grand. Alors, ça va pas à moitié. Je veux pas faire des guerres, que Dieu me pardonne. Je sais qu'on risque bien des soucis dans ce domaine-là. Mais la parole de Dieu nous dit, pauvre ou riche, si on doit dire amen, il faut dire amen. Si on doit dire bleu, il faut dire bleu. Vous comprenez ça? Et pas dire, toi c'est bleu, bleu, parce que t'es rien du tout. Mais toi t'es bleu, vert. Non, ouais, faut pas dire ça. Alors voilà, continuons. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Et écoutez le verset 16. Tu ne répandras point de calomnie. Calomnie, vous savez ce que ça veut dire. C'est pas la peine de prendre un dictionnaire Larousse pour trouver le mot. Ça veut dire cancan, parler sur les autres. Hein, c'est ça. Sans vérifier le fait, il ne nous est pas interdit de parler, de faire des remarques. Mais lorsqu'on n'a pas vérifié, on n'a pas le droit. Il faut vérifier avant de parler. Surtout pour dire une accusation contre quelqu'un. Parce que lorsqu'on parle et qu'on ne sait pas, on accuse. Et lorsqu'on accuse, on pèche devant Dieu. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. et tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Et écoutez le verset 17, parce que tout est un enchaînement. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, et tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne regarderas point, tu ne garderas point de rancune contre tes enfants, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors voilà donc un mot de Dieu de la bouche de Moïse pour son peuple, et le peuple de Moïse, c'est le peuple de Dieu, et souvent nous prenons Israël comme exemple de notre peuple à nous, parce que ces choses ont été écrites. Lorsqu'il y a calomnie, on va essayer d'expliquer le mot selon la parole de Dieu, le Seigneur Dieu en parle, lui, et négatif. Les prophètes en parlent, négatif. Les apôtres en parlent, négatif. Le Seigneur Jésus en parle, négatif. C'est une chose qui ne doit pas exister. Reprendre son prochain, être là comme témoin, c'est une vérité de la Bible, c'est marqué dans la parole de Dieu, mais calomnier, parler avec l'idée de nuire. Parce que calomnier, c'est parler avec l'idée de nuire, de faire du tort, de faire du mal. C'est sournois, c'est hypocrite. Bien souvent, le frère qui calomnie le fait par personne interposée. Il n'a même pas le courage de dire en face ce qu'il doit dire. Alors, il raconte des ragots, des petits mots, mais des petits mots qui passent. Mais moi, j'ai rien dit, mon frère. Oui, mais si, ce que tu as dit, t'en as assez dit. Parce que ça veut dire tout ce que ça veut dire. On sait lire entre les lignes aujourd'hui. Alors, faisons bien attention. C'est marqué dans la Bible, ce verset. Et les pasteurs le savent bien, et les chrétiens le savent bien. C'est marqué dans la Bible. Venez, et tuons-le avec la langue. Ah, la langue a fait des victimes, mes frères et sœurs. Et une parole est une épée qui transperce. Alors que les chrétiens doivent être au courant, vous l'êtes certainement. Et ce matin, bien sûr, j'aurais pu choisir. Comme mes copains, j'ai aussi une note 2, où j'aurais peut-être pu, pardonne-moi Seigneur, avec la grâce de mon Dieu, vous faire dire Alléluia, Amen. Et ce soir, ou ce matin, je préfère que vous disiez peut-être pas Alléluia, Amen, parce que j'en écoute pas beaucoup, les Alléluia, Amen, j'en écouterai peut-être pas beaucoup. Mais croyez-moi devant Dieu, c'est utile que nous parlions de ça. Oh, je suis vraiment intimide. Alors, on va continuer. Alors, écoutez, s'il vous plaît. Dans le contexte du verset que je vous ai lu, plusieurs mots ressortent. L'idée est basée sur le mot calomnie. C'est la calomnie qui est le centre même du verset. Et autour de la calomnie, du jugement actif, du jugement pour condamner, sans savoir, la parole de Dieu dit ceci en premier mot, tu ne commettras point de péché lorsque tu te prononceras. Donc on peut commettre un péché déjà. Calomnier veut dire dans le texte biblique, faute, iniquité, ça veut dire péché. Il y en a qui n'ont peut-être pas pris conscience de cela. Mais lorsqu'on a parlé contre quelqu'un, dans le but de nuire, dans le but de faire du mal, non pas pour redresser la vérité, mais juste pour condamner et nuire, on a commis un péché. Alors je voudrais vous avertir, mes frères et sœurs, et m'avertir à moi, de faire attention. Ça vous a pas arrivé? Moi, je veux être franco avec vous, hein. Ben, j'essaye de l'être toujours, de toute façon. Ben, moi, il y a des fois, je me mords pas la langue, non. Il y a des fois, je me dis, t'as dit une parole de trop, Jimmy. Il aurait pas dû le dire, ce mot-là, parce que c'était pas nécessaire, en plus. Si c'est nécessaire, si c'est utile pour la bénédiction du peuple, même une réprimande, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée, dit la Bible. Merci, Jean. Gentil. Donc, vous voyez, donc, une réprimande, elle a le droit de le faire. Je me laisserai aller à des détails. On verra bien ce que le Seigneur m'incitera dans mon cœur. Mais j'ai des exemples à donner, pour moi, me concernant. Parce que je vis aussi ça, moi. Je veux éviter cela, la calomnie. Et je veux aussi parler que j'ai besoin de conseiller, j'ai besoin d'être conseillé. Mais nous verrons ça dans le cadre du déroulement de notre étude. Alors écoutez, si c'est la vérité que vous avez dit, et que cette vérité a fait plus de mal que de bien, vous avez dit une vérité. Ah, vous avez dit une vérité. Mais des fois, cette vérité, elle est pharisienne. Parce qu'une vérité qui tue, bien, il faudrait peut-être pas cacher la vérité, Seigneur Jésus, mais la présenter d'une façon charitable pour faire comprendre au frère ou à la sœur qu'elle est en faute ou qu'il est en faute ou que je suis en faute, peu importe. mais avec une idée d'amour derrière. Il faut toujours venir avec un esprit d'amour lorsqu'on dit une vérité, lorsqu'on reprend quelqu'un. C'est un vieux pasteur, s'appelait Nicole, il était à Villeneuve-sur-Lot, on l'a connu, s'occupait de nos vieux au début du réveil. C'est lui qui a dit, vous n'avez pas le droit de toucher une plaie si vous n'avez pas préparé un pansement. On n'a pas le droit de toucher une plaie si on n'a pas préparé un pansement. Et cette parole est sage. Pourquoi faire plus de mal? Si nous parlons, c'est pas pour tuer, nous, c'est pour guérir. Et même si nous reprenons, c'est pour guérir. Alors si tu as dit même la vérité dans ta réprimande, elle peut être maladroite. T'as pas fait péché, t'es maladroit. T'as peut-être fait plus de tort que de bien. Mais t'as pas péché, t'as dit la vérité. Si tu me dis une vérité à moi, tu pêches pas. Mais si je comprends que tu me le dis pour me condamner, pour me tuer au lieu de m'avertir, alors là, tu es maladroit. Et ça arrive très souvent, que même lorsqu'on dit la vérité, il faut que le frère ou la sœur qui l'entende sache que c'est dans le but de la bénir, dans le but de la fortifier, de la délivrer. Mais par contre, si c'est faux ce que tu as dit, et que tu n'as reproduit qu'une parole que tu as écoutée, et que tu n'en connais pas la véracité, la profondeur, la réalité, mais que tu la connais, et que tu l'as reproduit partout, alors là, tu as fait un péché devant Dieu. Car ça, c'est une calomnie. Comprenez? La calomnie, c'est de dire une chose qu'on a écoutée de mal, et de le redire sans l'avoir vérifié. Et surtout, qu'on l'a pas dit au personnage concerné, mais qu'on l'a dit surtout à toutes sortes de gens. On a le droit de reprendre son frère. N'est-ce pas marqué dans la Bible, si ton frère a péché, ta sœur, ce frère peut être le frère là-bas, ça peut être le président, ça peut être le tout volé. La Bible déclare, va et reprends-le. C'est évangélique. Mais elle ne pas dit, va et rapporte-le. C'est pas évangélique, ça. L'évangile ne dit pas, va et rapporte le mal de ton frère. La Bible dit, va et reprends ton frère. Vous comprenez la différence? Et qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des chrétiens de la Bible. Notre patron s'appelle Jésus, nous. Alors nous ne sommes pas des inspecteurs, des gardés pour regarder par le trou de la serrure, pour voir qu'est-ce qu'il fait, pour dire, viens vite, regarde! T'as vu une faute vers moi? T'as vu un travers vers l'autre? Ton devoir de chrétien, c'est va et reprends-le. Et tu peux gagner ton frère. Et le frère peut dire, mais oui, mon frère, fais attention, j'étais ignorant, aveugle. Si t'écoutes pas, tu prendras deux témoins, tu le feras passer devant l'assemblée, et puis après, il va prendre la discipline de l'église. Tu le considères comme un païen publicain, ça veut dire que tu ne lui donneras pas la Sainte-Cène pendant un temps, tu lui priveras de l'offrande en même temps, et puis il n'aura pas le droit d'élever sa voix, jusqu'à ce qu'il retrouve du repentir, dit la Bible, et que revenant de son mauvais sens, il demande pardon et il revient de son égarement. Ça c'est l'évangile de Matthieu qui dit ça. L'évangile de Luc, Jésus toujours, le dit avec une variante d'expression. Le frère ou la sœur en question est un scandale pour l'assemblée. Son péché, sa faute, a créé un trouble dans le cadre de l'Église. Alors là, faut reprendre. Faut faire la règle de l'Évangile. Mais Jésus dit la même phrase à quelque chose près, avec Luc, mais avec une différence. Dans Matthieu, il dit, si ton frère a péché, s'arrête là le Seigneur Jésus. Dans Luc, il dit, si ton frère a péché contre toi, il donne une note supplémentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, faut le reprendre, faut le faire passer devant l'assemblée, hein, le conseil de direction, s'il vous plaît, réunissez-vous. Ah non, dit Jésus, non. Si ton frère a péché contre toi, une affaire personnelle, il m'a injurié, il m'a insulté, il m'a bafoué contre moi, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tu le pardonneras 7 fois, 77 fois, 7 fois. Il n'y a pas de conseil de direction, là. Il n'y a pas de faire passer devant l'équipe, là. Lorsque quelqu'un t'aura bafoué à toi, t'aura insulté à toi, va dire, je te traîne devant les tribunaux. Tu lui pardonneras 7 fois, 77 fois, 7 fois. Par jour, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il faut pardonner à l'infini. Alors si quelqu'un est en scandale avec l'Église, là, faut faire la règle de l'Assemblée. Mais si quelqu'un vient et nous insulte personnellement, ou nous outrage, eh bien, l'Évangile, Jésus nous dit la règle à suivre. Et il faut pas mélanger les deux. Parce que c'est évangélique de faire comme ça. Et les pasteurs sont bien initiés quant à ces choses. Et vous lisez vos Bibles, je sais, vous chrétiens. Donc, tu ne répandras point de calomnie. Répandre, c'est cancan, parler, hein, chuchoter. Car tu commettrais une iniquité dans ce cas-là. Et puis, cette calomnie est liée à ce mot. Tu ne haïras pas ton frère ou ta sœur. Parce que dans la calomnie, il y a de la haine. C'est à cause que nous sommes haineux, vous comprenez le mot, que nous avons de la rancune, de la rancœur, nous avons un mauvais sentiment à l'égard de l'un et de l'autre. Et nous jugeons par rapport à une personne. En vérité, la parole de Dieu nous interdit de juger une personne. Elle nous demande de juger un cas, c'est différent. Vous comprenez? Que le monsieur a une tête ronde ou une tête carrée, ça change rien, ça. C'est pas le monsieur qu'on juge, si on doit juger. C'est le cas que l'on prononce. Et ce cas qui se trouve vers lui, vers l'autre, eh bien c'est le cas qu'on vérifie. On ne doit pas avoir, nous, de difficultés, de différents à l'égard de l'un et de l'autre. Mais s'il y a un cas à vérifier, on le fait. Alors voyez, l'apôtre et le Seigneur et les prophètes sont tous d'accord, vous allez le voir, pour nous mettre sur la même loi du danger. Parce que nous, on croit que la calomnie, c'est rien, une parole. Oh là, ça j'en dis assez. La parole que tu as dit, tu ne sais pas les conséquences qu'elle peut avoir. Tu sais pas le drame qu'elle pourra produire. Et nous, les pasteurs pourraient nous donner plein d'expériences dans ce domaine-là. Et je pourrais vous en donner aussi. Donc, calomnier, c'est faire un péché selon la Bible. C'est pas bénin, attention. Calomnier, c'est lié à la haine, à la rancœur. C'est lié à la jalousie. J'ai un ressentiment. Tu m'es antipathique. Parce qu'il faut dire la vérité devant Dieu.
Je le dis pour moi, hein.
Je le dis pour moi. Pour se laisser aller s'il y a, non pas des divagations, Dieu nous garde. Et puis moi, je suis pas un expert en la matière, en plus, hein. Mais disons que, pardonnez-moi, nous avions besoin, il y a quelques années en arrière, de voir un peu plus clair quant à comment se prononcer à l'égard de tel cas, de tel cas, de tel cas. Il y en a. On les garde pour nous. Et puis, ce qu'il faut pas, c'est pas écouter la voix de la majorité, pas écouter la voix du pasteur, du président, ou du secrétaire, ou du trésorier, ou de l'autre. Il faut écouter la voix de la Bible, c'est la Bible qui nous dirige à nous. Le grand nombre ne compte pas lorsque c'est écrit, vous comprenez bien. On fait pas de vote devant la doctrine. On fait des votes lorsqu'on n'a pas de lumière. Mais lorsque c'est écrit noir sur blanc, on n'en a rien à faire des votes, c'est le Christ qui l'emporte, même si tout le monde est en désaccord avec. Le vote ne vient que lorsqu'on met une lumière et que c'est dans le grand nombre des conseillers que se trouve la sagesse. Et il semblait qu'il nous manquait quelques petites lumières. Ils sont dans la parole de Dieu, mais on ne les avait pas. Comme il y en a encore dans la parole de Dieu qu'on n'appelait pas trouver. C'est notre connaissance biblique et notre spiritualité qui nous permettra de mieux s'adapter au texte de l'Évangile et de mieux prononcer notre message, ou en tous les cas nos paroles, dans les besoins. Alors je me suis mis à la tâche, comme quelques copains, et j'ai essayé d'écrire quelques notes sur la discipline existe-t-elle dans l'Église? Peut-on discipliner? Et pourquoi discipliner? Que ce soit le chrétien, la chrétienne, le serviteur de Dieu, n'importe qui. Mettez le président dedans si vous voulez, il échappe pas. Et puis, je suis arrivé à cette petite déduction, mais qui était tellement visible dans nos assemblées, et tellement visible dans notre mission. Et là, je vais me parler négatif. Il y a 3-4 sortes de personnalités. Il y a ceux qui se prononcent parce que celui qui est devant, il est antipathique. Il lui plaît pas trop. Alors, il a rien de particulier, mais il suit la masse. C'est un mouton de Panurge. Ils ont dit à mort, et toi? Ah ben moi, ils disent à mort, je dis à mort aussi. Il n'y a pas de conviction là. On suit la masse. Ça, c'est pas de Dieu, ça. On ne peut pas se prononcer lorsqu'on n'a pas de conviction. Si tu sais pas, alors tu votes blanc, tu restes assis. Si tu sais quelque chose, tu dis ce que tu as à dire. Et dans le cas, souvent, ça arrivait, il y avait éventuellement des antipathiques. Alors, sans examen approfondi, si on peut le dire, la balance penchait de ce côté-là. Ceux qui étaient contre, si vous voulez. Par contre, on a un autre danger. Ceux qui sont plus gentils que le Seigneur Jésus. Il y en a comme ça. Oui. Que le Seigneur Jésus dit que c'est écrit, on se dit oui, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, le Seigneur Jésus. Il a voulu dire autre chose, certainement. Alors on peut faire autrement. Ils sont plus gentils que le Seigneur Jésus. Ils sont plus gentils que Jean. C'est les disciples de l'amour. Alors ils excusent tout. Les autres, ils condamnent tout, sans écouter, sans voir, à mort. Et les autres, ils excusent tout. C'est pas la peine, on est charitable, on est chrétien, c'est pas grave, laisse faire. C'est autant dangereux l'un que l'autre. Les deux sont autant dangereux l'un que l'autre. Vous comprenez ça, les frères? Bien sûr, les chrétiens aussi.
Vouloir tout condamner sans savoir, c'est un péché. Vouloir tout excuser parce que vous êtes plus gentil que tout le monde, ça aussi c'est un péché, parce que c'est de la faiblesse devant Dieu. Qui est plus gentil que le Seigneur Jésus? Qu'il y en a un qui lève la main, et même dans mes poches en tous les cas, moi. Personne ne peut être plus gentil que le Seigneur Jésus, quand même. Personne ne peut être plus droit que le Seigneur Jésus. Il a été injurié. Il n'a pas rendu d'injure. Il a été méprisé. Il a été menacé. Il a été comme un agneau muet devant celui qu'on le tond. C'était pour lui. Pour lui. Pour notre salut. C'était lui qui était en cause. Il a vécu son évangile, Jésus. Et pourtant, un jour, l'apôtre Pierre est venu. Notre bon Seigneur Jésus. La gloire lui appartient. Et l'apôtre Pierre a laissé entendre à Jésus, Jésus dessinait la croix, il allait mourir pour nous. Et l'apôtre Pierre a compris le message. Il a dit, ah non Seigneur, une chose pareille t'arriverait pas. On va dire, moi je m'opposerai, hein, tu comprends? Je vais pas te laisser mourir, hein. C'est gentil, hein, on aurait dit, maman, il n'est pas charitable lui. Combien d'amour qu'il a pour Jésus celui-là. Il voudrait éviter la croix à Jésus. Jésus ne lui a pas dit, tu es bon, tu sais Pierre. T'es sympathique toi au moins, tu me défends toi. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Les paroles que tu as sont pas les paroles de Dieu. Il croyait bien faire, le pauvre malheureux. Mais en s'opposant à la vérité de l'évangile, en s'opposant à la croix, en s'opposant à la règle de Dieu, à la vérité de Dieu, on ne tient pas le langage de Dieu, on tient le langage de Satan. Et chaque fois que quelqu'un détournera quelqu'un de la croix, détournera quelqu'un de la consécration, détournera quelqu'un de l'humilité, de la bonté, de l'amour, du pardon. Vous tenez pas le langage de Dieu. Jésus va pas vous féliciter. Ah, mon frère, combien de choses faire? Tu n'es pas plus que les autres. Pourquoi tu donnes ton offrande, toi? Toi bien, ça sert à rien. Oh là, Seigneur, c'est négatif, ça. Toi bien, est-ce qu'on ça qui prie? Mais non, mon frère, t'as autant de résultats sans ça. Oh, c'est négatif, ça. Chaque fois que nous nous opposons à l'esprit de l'évangile, qui nous appelle à toutes ces vérités de la Bible, nous ne tenons pas le langage du Seigneur. Nous faisons un langage négatif et pas positif. Alors la calomnie, parce que c'est de elle surtout que je vais vous parler et pas d'autre chose, c'est un péché. C'est lié à une sorte de haine, de rancune, de jalousie à l'égard de l'autre. C'est ce qui est arrivé à Caïn, à l'égard de son frère Abel. On peut pas dire qu'il n'aimait pas, c'était son frère dans la chair. Fils de père et mère. Mais la jalousie s'est installée. La jalousie a fait naître la rancune, la haine. Et puis la haine est arrivée au meurtre. Lorsqu'on n'arrête pas en route, lorsqu'on ne demande pas pardon au Seigneur, pourtant le maître avait prévenu, il avait dit le péché est devant ta porte, il n'était pas encore entré. Mais il n'a pas tenu compte de l'avertissement. Et parce qu'il a fait l'acte, le péché n'était plus dans sa porte, le péché a rentré dans son cœur. Alors le péché devant notre porte, ça personne ne peut l'interdire. On n'interdira pas à Satan d'être devant notre porte. Il est constamment devant la mienne. Mais ce qu'on peut, c'est l'interdire de rentrer. Comprenez ça, frères et sœurs? On peut pas l'empêcher de tourner autour de nous. Mais on peut l'empêcher de rentrer en nous, en refusant ses paroles. Je réfléchissais à un mot il y a quelques jours, lorsque je prêchais dans une autre assemblée, à cette phrase de Jésus. Mais il est bon, Jésus. Il est certainement plus bon que je le pense, et que vous le pensez. Mais là, j'ai dit, Seigneur, mais c'est magnifique, mais c'est merveilleux. Et puis, c'est vrai que j'avais pas fait attention au texte. Alors là, je veux pas essayer de m'excuser à travers vous, hein. Parce que j'en prends pour mon grade. Pas que ça. Jésus a dit, si tu t'es mis en colère contre ton frère, toi, mon frère, toi, ma sœur, moi, Jimmy, Seigneur Jésus, je m'humilie devant toi. Je ne sais pas faire la différence. Je sais qu'il y a soupe au lait, colère, il y a haine, méchanceté. Allez, disons, mettons tout ça dans le même sac. Et essayons pas de dire, toi c'est de la méchanceté, moi c'est de la soupe au lait. Pas la peine de faire des hypocrites. Ce sont des mots déplacés et des mots des fois malséants qui font du mal. Si tu t'es mis en colère quand ton frère a dit le Seigneur, et c'est Jésus qui le dit, eh bien je vous le dis, que tout le monde écoute ça ce matin. C'est ton maître et le mien qui a dit ça. Il a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire que si avant le soleil se couche, si tu as réglé la question avec ton frère, avec ta sœur, tu as été capable de t'humilier et que tu as été capable de demander pardon, cette colère n'est pas comprise comme un péché pour Dieu. Mais si le soleil s'est couché et que tu n'as pas rectifié l'affaire, alors c'est compté comme un péché, dit le Seigneur Jésus. Comprends? Tu t'es mis en colère le matin, et puis toute la journée t'as ronchonné, puis t'as canconné, puis t'as parlé. Et si le Saint-Esprit t'a repris, puis que t'as dit, frère, sœur, je pense qu'il faut que devant Dieu on arrange ça, mon cœur est troublé, eh bien t'as fait un tort pour les hommes, pour ta conscience. Mais ce péché n'est pas noté, parce qu'avant que le soleil se couche, dit Jésus, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ne donne pas accès au diable. Car on donne accès au diable lorsqu'on ne répare pas dans la journée. Alors pourquoi? Parce qu'on serait tous condamnables tous les jours, parce que nous avons plus ou moins des problèmes, nous bronchons tous de plusieurs manières. Jésus nous donne l'occasion de ne pas rester dans le négatif. Jésus nous donne l'occasion de ne pas rester dans le mal, mais de régler la question. Et je pourrais vous donner des expériences, comme les pasteurs pourraient vous donner des expériences, comme les chrétiens peuvent donner des expériences aussi. Calomnie est un péché. La calomnie est liée à la haine. Mais par contre, le texte de la Bible que nous avons dit, le Seigneur nous autorise. Et ça, c'est pas de la calomnie, ça. C'est de l'évangile. Tu auras soin. Le faire avec soin. Avec attention. Avec réflexion. Tu auras soin de reprendre ton frère. Et si tu as eu faire commettre une faute à ton frère ou à ta sœur, que tu sais que j'en ai une, et que tu ne reprends pas, là tu peux commettre aussi une faute, toi. Parce que tu laisses ton frère et ta sœur aller à la mort, c'est beaucoup dire, mais en tous les cas dans un chemin de travers. Tu auras soin de reprendre ton frère. Et il y a plein de blagues qui se fait dans nos assemblées. Il y a plein de fautes qui se fait dans nos églises. Parce que, oh, ça ne me regarde pas, moi. Ah non, la Bible nous rend responsables. La Bible nous rend responsables. Tu auras soin de reprendre ton frère, de le reprendre, pas de canconner, de parler. De dire, frère, ce que tu as fait, ça va pas, ça. Peut-être que tu te trompes. Peut-être que c'est pas comme ça, le frère t'expliquera. À moins que tu aies témoin de la chose. Faut-il encore des fois, devant certains cas, de serviteurs de Dieu, mes frères, je vous cite la Bible, non pas pour me défendre ou défendre nos pasteurs, mais je vous cite la Bible, lorsqu'un serviteur de Dieu surtout est en cause, l'apôtre Saint Paul, au nom de Jésus, prend la précaution de dire, attention, deux ou trois témoins, hein, pas n'importe quoi, parce qu'il peut y avoir des fausses accusations, des fois. Il peut y avoir des fois des jalousies. Rappelez-vous, la femme de Potiphar, elle a accusé drôlement notre brave frère Joseph. Et ce n'était que de la calomnie, ce n'était pas la vérité. Alors, pour être sûr que nous sommes devant une garantie, l'apôtre, s'il s'agit d'un serviteur de Dieu, il le met en avant, et je n'ai pas à dire autre chose que la Bible. On ne reçoit pas d'accusation contre un ancien s'il n'y a pas deux ou trois témoins, dit la Bible. Nous fonctionnons avec le texte de la parole du Sauveur. Alors, je continue. Tu auras soin de reprendre ton frère. Et si nous ferions cela, bien souvent, nous nous conseillerons mutuellement. Nous nous ouvrons les yeux. J'avais pas compris ça comme ça, mon frère. Bien, merci de me le dire. Je pense que devant Dieu, nous serions plus évangéliques. Il y aurait peut-être des frères, je me rends responsable, hein. Et je n'ai pas le droit de vous engager, moi. Il y aurait peut-être des frères que nous aurions sauvés, si peut-être, avant qu'ils tombent dans le travers, vraiment, nous aurions intervenu pour conseiller, pour reprendre. Peut-être que nous aurions ouvert les yeux. Prenons l'exemple de nos jeunes, quand beaucoup de foyers sont concernés. Et je sais que je vais lancer une pierre là, mais à personne, c'est un mot de Dieu tout court. Combien de foyers sont troublés aujourd'hui parce que leur garçon ou leur fille s'entend un mauvais mariage? Ils sont dans des mariages que la Bible n'accepte pas et qu'on ne peut pas accepter. Si au lieu de laisser faire nos enfants, nous aurions dit, nous instituons la parole de Dieu dans nos foyers. Nous apprenons à nos enfants, à nos jeunes, la vérité de la Bible. Une fille n'a pas le droit de prendre un homme qui a été marié. Un garçon n'a pas le droit de prendre une fille qui a été mariée, selon l'expression de la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait des vérités de la Bible. Bien sûr, il peut y avoir des arrangements, s'il y a des faits, ou ceci, ou cela. On peut toujours discuter. Mais si nous avertissions nos gens, nous aurions moins de difficultés dans nos familles, moins de difficultés dans nos foyers. Nous débattons pratiquement nuit et jour des problèmes de mariage. Parce qu'il semblerait que nos enfants ne nous écoutent pas ou que nous ne prononçons pas ces vérités de la Bible. Il est temps que nos chrétiens connaissent les vérités de la Bible. Comprenez, mes frères et sœurs? Et ce n'est pas un péché que de citer les vérités de la Bible, non pas en juge ou en docteur, mais en serviteur de Dieu tout court. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça aux Galates. Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Ça ne me fait pas sourire non plus, moi, cette parole de Dieu ce matin. Vous êtes assez austère ce matin. Mais je suis convaincu que vous comprenez qu'il y a là un mot de Dieu pour nous. Et c'est important. En tout cas, il faut que nous rectifions selon la Bible. Nous ne pouvons pas agir selon l'ethnie, parce que nous sommes des manouches, des voyageurs, des roms, des gitanes, des yénistes. Nous n'avons qu'un seul règlement, nous. C'est celui que Jésus a institué. Et il n'y a pas une Bible pour les yénistes, ou pour les voyageurs, ou pour les manouches, ou pour les roms. Il y a la Bible pour vous et pour moi, l'Écriture. Et c'est nous qui nous plions à l'Écriture. Et ce n'est pas l'Écriture qui se plie à nos conditions. Dans les choses secondaires, on peut toujours discuter. Mais dans les choses de priorité, non. Alors la calomnie, c'est quoi? C'est un péché. C'est lié à la haine. C'est parce que nous ne reprenons pas nos frères, que nous parlons derrière plutôt que de les reprendre. C'est de l'hypocrisie tout court. Et puis le texte biblique au verset 3 déclare « Tu ne garderas pas rancune ». Eh bien, c'est parce qu'il y a de la rancune, bien souvent, liée à la haine, à la jalousie, que l'on parle, et qu'on parle tort et à travers. Vous voyez, c'est, la calomnie est liée à tout ça. Et puis pour terminer le texte, mais c'est pas encore fini, il y a ce dernier verset que nous avons lu, et il est important, le remède. Le Moïse, au nom du Seigneur, nous avertit. Calomnier, c'est péché. C'est haine. C'est hypocrisie. C'est vengeance. C'est rancune. Voilà le mot calomnie dans la Bible, dans la bouche là, de Moïse. C'est lié à ça. Ça, c'est le mal. Et Moïse ne reste pas sur le mal. Moïse, au nom de Dieu, il donne le remède. Il n'y en a qu'un seul. Et Moïse, il donne le remède au verset 18 et il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est l'amour qui réglera tout. C'est l'amour qui nous empêchera de parler contre l'autre. C'est l'amour qui nous empêchera d'avoir de la haine, d'avoir de la rancune, d'avoir de la jalousie. Mais si nous ne nous aimons pas, alors c'est la haine ou la rancune ou la jalousie qui prendra la place. Il faut que l'amour l'emporte, le remède à la calomnie et le remède à tout péché de toute façon restera l'amour. Il n'y a pas que le Seigneur Jésus dans les évangiles qui a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Dieu l'avait déjà noté dans le Lévitique par la voix de Moïse. Et c'est le remède à la rancune. Et comment que c'est important, comment que c'est important. Voulez-vous que nous lisions Jérémie, s'il vous plaît, mes frères? Il y a là une note de très grande importance. Lisons Jérémie, chapitre 9, s'il vous plaît. Il me semble, mais je pense que là, c'est le diable qui veut me faire croire ça. Alors je refuse. Il me semble que je suis en train de vous embarrasser et que je suis en train de m'embarrasser moi-même. Eh bien, je refuse au nom du Seigneur. Je dis aux chrétiens qu'il faut qu'on arrête la calomnie. Vous me permettez de vous le redire encore? Ça fait trop de mal, mes frères et sœurs. Notre mission est bloquée. Nos pasteurs sont bloqués. Et plein de trucs est bloqué parce qu'il n'y a pas ce qu'on a besoin ensemble. Qu'on se dise nos vérités, qu'on se reprenne, c'est biblique. Qu'un serviteur de Dieu élève la voix pour dire « Frère, ça, je pense que ça va pas, on va faire comme ça. » Il calomnie pas, il donne une solution meilleure, il a le droit. Et qu'un chrétien dise « Frère et sœurs, l'offrande pour ça, l'organisation pour ça, c'est pas une calomnie ça, c'est un conseil. » Alors faisons la différence entre une calomnie qui parle pour faire tort et un conseil qui parle pour faire bien. Vous comprenez ça, frères et sœurs? Et on a le droit dans la Bible. C'est évangélique. Alors Jérémie, on lit Jérémie chapitre 9, versets 4 à 9. Je cite, écoutez s'il vous plaît. Que chacun se tienne en garde. Seigneur, c'est pas vrai mon baron d'Evel. On pourrait en arriver là dans notre mission? Ah, si le prophète l'a dit, c'est que ça existait de son temps. Et que ça existait même dans tous les temps. Je tombe du ciel aussi, moi. Ça fait longtemps que je suis tombé du ciel, de toute façon. Que chacun se tienne en garde contre son ami. C'est pas ton ennemi. Contre son ami. Parce que les plus grands dangers, c'est pas nos ennemis du dehors. On sait bien qu'ils nous calomnient, qu'ils nous rapportent, qu'ils nous font... Mais ils ont le droit de nous lancer des flèches. Ils ont le droit de nous... Pardonne-moi, ils ont le droit, je n'ai pas le droit, mais ils font ce qu'ils veulent, s'ils disent tout. Seriez-vous des seigneurs Jésus, ils parleraient contre vous et contre moi. Mais nos amis, c'est le symbole de nos frères. C'est le symbole de l'Église. Vous êtes mes amis, a dit Jésus. Faudrait-il qu'on se tienne en garde contre nos frères? Bientôt, il faudrait deux témoins pour parler devant quelqu'un. Parce que les paroles sont toujours tournées à l'envers. Faudrait un magnétophone ici bientôt pour enregistrer. Peut-on faire ça dans notre mission, Barodevel? Allons-nous arriver là, Seigneur Jésus? Au nom du Christ, serviteur de Dieu, il faut que nous puissions comprendre. Que chacun se tienne en garde contre son ami. Seigneur mon maître, si ça existait du temps de Jérémie, Jésus, que ça n'existe pas chez nous, Jésus, Jésus, que chacun ne se fie à aucun de ses frères. Mais si on vit ça, nous sommes les plus malheureux de la terre, mon baron d'Eben. Faut arrêter notre mission dans ce cas-là. Faut arrêter nos églises. Si on peut plus faire confiance à son frère, si on dit comment qu'il va le prendre celui-ci, faut-il que je lui dise ça ou pas ça à lui-là? Est-ce qu'il va le comprendre? Ou alors, est-ce que vous allez me dire, est-ce que Jimmy et Priam va pas mal tourner? Si on peut plus faire confiance à ce frère. Et bien pourtant, le prophète l'avait dit en Israël, ça marchait bien comme ça. Parce que c'était comme ça que c'était devenu. Car tous cherchent à tromper. Et tout ami répand des calomnies. C'est les amis qui répandent les calomnies. Ceux qui ne nous connaissent pas, ils n'ont rien à dire sur nous. Ce sont ceux qui nous connaissent de près qui parlent souvent les plus. Ce sont les frères qui font les calomnies. C'est marqué dans la Bible. Qu'un étranger vienne, un inconnu, un inconverti vienne et vous insulte. Pardonnez-moi de cette phrase. On vous fait une marque désobligeante qui va aller plus loin. Vous allez agir en chrétien, vous allez rester ferme. Et vous allez dire, c'est pour ton nom, Seigneur. Je crois en tous les cas que j'accepte cette prébente. Les apôtres furent joyeux d'avoir été battus pour le nom de Jésus. Je ne sais pas si nous allons le prendre avec joie, nous, mais en tous les cas, c'est marqué comme ça dans la Bible. Parce que c'était le Sanhédrin, c'était les ennemis de l'Évangile. Mais si c'est ton frère chrétien, ton frère de prédicateur, ou ton frère dans le Seigneur, qui te le fait, il nous faut une plus grande grâce pour supporter ça. On supportera beaucoup plus de la part de ceux du dehors que de la part de ceux du dedans. C'est important. Et ici, le prophète ne parle pas des attaques des ennemis, il parle des difficultés des frères, des calomnies entre frères et sœurs, qui faisaient un ravage en Israël, dans l'assemblée des enfants de Dieu. On continue le verset. On se joue les uns des autres. Ils ne disent point de vérité. Ils exercent leur langue à mentir. La calomnie est un mensonge en plus. Parce qu'elle est souvent bâtie sur le mensonge, sur le faux, pour nuire. Alors non seulement c'est un péché, non seulement c'est de la haine, non seulement c'est de la rancune, de la jalousie, mais c'est un mensonge, la calomnie. Parce que lorsqu'on découvre, parce que lorsque c'est la vérité, on ne calomnie pas, on reprend. Comprenez? Lorsque c'est la vérité, on ne calomnie pas, on reprend. Et la réprimande est une vérité. C'est un bienfait de l'Évangile. C'est une ordre de l'Évangile. Alors que la calomnie, c'est du mensonge. Faire passer sur d'autres quelque chose que de quelqu'un. Il faut que nous le puissions comprendre ce matin. Plusieurs s'étudient, le verset 5, à faire du mal. Il y en a qui s'étudient, ils sont astucieux. Ils s'étudient à faire du mal. Il y en a qui s'étudient, ils sont astucieux. Ils s'étudient à faire du mal. Ça ne peut pas être dans notre assemblée, ça, mon Sauveur, que Dieu nous en garde et que Dieu nous en pardonne. Ta demeure est au sein de la fausseté. Ce sont des paroles qui sont dites au peuple d'Israël, et je ne les mets pas sur nous, je retiens les mots qui peuvent nous être utiles à compréhension. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, l'Éternel. C'est pourquoi voici, je sonde, je les éprouverai, je verrai comment ils agissent. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. Ils parlent de paix à leur prochain, mais dans leur cœur, c'est la guerre qu'ils ont. Et c'est ça, la calomnie. Pardonnez-moi le mot, pour moi, comme pour vous, c'est le baiser de Judas. Lorsqu'on a un ressentiment l'un contre l'autre, et qu'on est capable de dire « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, moins, moins, moins !» Et qu'on n'est pas capable de dire la vérité, nous sommes des faux devant Dieu. Nous sommes des hypocrites, nous sommes des Judas. Et si ça vous choque, ça me choque aussi à moi. Je crois qu'il faut qu'on soit capable de changer tout ça. Et qu'on demande au Seigneur de nous humilier, de m'humilier à moi, de vous humilier à vous,
et de se dire ce qu'on a à dire, si c'est pour le bien de l'Évangile. C'est bien mieux comme ça, mon Seigneur. En tous les cas, le texte est là devant nous. Le texte est là devant nous. Que Dieu nous y aide. Alors, dans le texte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tromperie, moquerie, mensonge, malice, fausseté, hypocrisie. Tout ça est noté dans le texte de la parole du Seigneur. Alors, je vais plus vous lire le texte. Je vais vous lire terminer parce que faut pas que j'exagère quand même. J'exagère pas, bien sûr, mais il faut que j'en reste là. C'est peut-être pas le Seigneur qui a voulu que je vous dise ça ce matin. C'est moi, peut-être, qui a pensé que c'était comme ça. Mais comme c'est une parole de Dieu, il est bon de l'entendre, de toute façon. Acceptons ce mot du Seigneur pour moi et pour vous, pour nous, serviteurs de Dieu. Soyons capables de se dire ce qu'on a à se dire. Soyons capables de reprendre nos frères, de conseiller nos frères. Arrêtons les cancans, les calomnies, les paroles malhonnêtes qui sortiraient de votre bouche. C'est marqué dans la parole de Dieu. Écoutez ce que dit David au psaume 101, verset 3. Je hais la conduite des pécheurs. Je connais les pensées perverses de ceux qui calomnient en secret leur prochain. Ceux qui calomnient en secret leur prochain. Dieu dit, je hais cela. Dieu n'aime pas ça, mes frères. Vous n'allez pas faire plaisir à Dieu en faisant de la calomnie. C'est Dieu haït ces choses-là. C'est marqué dans la Bible. C'est marqué au psaume 101, versets 3 et 5. Je hais ceux qui calomnient, dit le Seigneur. J'approuve ceux qui reprennent, dit le Seigneur. C'est différent. Vous voyez la différence? Le Seigneur approuve ceux qui reprennent leurs frères, leurs sœurs, parce que c'est dans le but de les bénir, de les sauver. Mais ceux qui calomnient, Dieu dit, je hais ceux qui calomnient, dit le Seigneur. Écoutez ce que dit le Proverbe 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, mais celui qui reprend, et celui qui la répand, cette haine, ça veut dire qu'il la diffuse, qu'il la calomnie, dit le texte officiel, celui-là est un insensé. C'est un menteur, Dieu le haït, et c'est un insensé, selon le texte de la parole de Dieu. Ce sont tous les petits mots qui devraient nous faire réfléchir. Maintenant, il y a ce remède, parce qu'il faut toujours essayer de donner un petit remède. Il y a le remède du Proverbe 11 et verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle, il garde ce qu'il sait. Il ne le répand pas, il va le dire à celui qui est concerné. Et c'est important, ça. C'est très important. Répandre ou garder pour dire à celui à qui ça intéresse. C'est très important. Je vais vous dire encore quelques mots. Il faut que je vous dise quelques mots de Jésus et des apôtres, car je ne peux pas terminer et je ne vais pas... J'ai regardé le dictionnaire. J'ai voulu savoir... Moi, je suis pas trop un expert, mais pas du tout en plus. J'ai voulu regarder le dictionnaire pour savoir quel était le dictionnaire des synonymes, les mots qui vont ensemble. Ce sont tous des mots qui sont de la même nature. On appelle ça les synonymes dans le dictionnaire. Eh bien, j'ai regardé le synonyme du mot calomnier. Ça veut dire salir quelqu'un, médire, discréditer, débiner, le mot est employé dans le dictionnaire, taper sur quelqu'un, diffamer, mentir pour faire du mal. Ça veut dire jaser, ragot, raconter. Ça veut dire juger, condamner, être méchant, être jaloux, être haineux. Voilà tous les mots qui se raccordent au mot calomnier. Alors des fois, on a peut-être un de ces autres mots-là. Faudrait peut-être voir, frère. Tous ces mots-là, ce sont des mots qui ont leur racine dans la calomnie. La bonté, la miséricorde, la compassion, ce sont des mots qui ont leur racine dans l'amour. Parce que ça, ce sont des expressions de l'amour. Eh bien, tous ces mots-là, là, salir, médire, débiner, taper sur quelqu'un, diffamer, jaser, ragoter, juger, condamner, jaloux, haineux, tout ça sort de la calomnie. Alors, il faut que tous ces mots-là puissent être compris. Oh, j'ai pas dit grand-chose. Eh bien, si un tout petit mot peut nuire. Bon, je vais pas exagérer quand même, Seigneur. Je vais terminer avec quelques mots des apôtres et un mot du Seigneur Jésus. Enfin, c'est lui qui aurait dû avoir la prééminence, notre Seigneur Jésus, priorité. Mais laissez-moi vous dire un mot de l'apôtre Saint Paul. 2 Timothée 3, 1 et 3. Notez. Dans les derniers jours, et plus nous arrivons à la fin, à l'échéance de ce que nous attendons tous, le retour du Sauveur dans les demandes d'Église, l'apôtre Paul souligne. Alors vous savez ce qu'il dit l'apôtre Paul? Eh bien écoutez, c'est curieux. Je suis obligé de vous le dire. Écoutez ce qu'il dit. L'apôtre Paul présente une liste de péchés négatifs. Et avec honnêteté devant Dieu, je voudrais que nous le lisions. Je l'ai marqué, c'est mon texte. 2 Timothée 3, 11. Dans les derniers jours, les gens seront, écoutez le mot, égoïstes, amis d'argent, fanfarons, vaniteux, hautains, blasphémateurs, ingrats, cruels, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Ils aimeront mieux le plaisir que Dieu. Et dans cette liste-là de péchés négatifs, l'apôtre Paul met au plein milieu, dans les derniers temps, les gens seront calomniateurs. Il inscrit le mot calomniateur au milieu des gens meurtriers, traîtres, vaniteux, orgueilleux, souillés. Pour l'apôtre Paul, le mot calomniateur, c'est pas une banalité. Vous comprenez? C'est pas un petit truc de rien. L'apôtre Paul aurait eu tort de mettre cette phrase en plein milieu de tous les péchés flagrants. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? L'apôtre Paul met cette phrase, vous lisez le texte, il emploie le mot « les gens seront calomniateurs » et il le met entre les péchés de la chair, les péchés qu'on condamne. Quelqu'un qui est traître, emporté, enflé d'orgueil, blasphémateur, ami du monde, on dit « maman, quel péché !» On reprend un frère comme ça, un chrétien qui est ami du monde et qui est souillé dans le monde, le pasteur a le droit de lui interdire la Sainte Cène. Le pasteur a le droit de le mettre à l'épreuve. Eh bien, s'il a le droit pour ça, il peut avoir peut-être le droit pour l'économie aussi. Parce que c'est dans la liste des péchés. L'apôtre Paul le met dans la liste des péchés. Est-ce que vous comprenez, chrétien? Je ne prêche pas pour vous, moi. Je prêche pour nous. C'est différent, ça. Je suis compris dans cette affaire. Oh, c'est très grave d'aller dans le monde et se souiller. C'est très grave de se battre, de boire. Un chrétien n'a pas le droit. Bien sûr qu'il n'a pas le droit. Mais alors, il n'a pas le droit de calomnier non plus. Puisque Paul le met dans la liste, alors ne le rayons pas, ne disons pas c'est rien mon frère ça, parce que non seulement nous retranchons à la parole de Dieu, nous sommes des hypocrites devant le Seigneur. Il faut que nous appelions la vérité, vérité mes frères. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Ne croyez pas que c'est rien calomnier. L'apôtre Paul l'inscrit dans les péchés de la faim comme étant flagrant. Écoutez ce que dit Paul encore dans un de ses textes. La racine de la calomnie, écrit-il, c'est les disputes de mots, c'est l'envie, c'est la jalousie, les querelles, les soupçons, l'orgueil. Tout cela, dit la Bible, dit l'apôtre Paul, arrive à la calomnie. Les soupçons les uns sur les autres, la vanité, les querelles, les jalousies, tout ça va arriver après à parler, à diffamer, à discuter. J'ai trouvé dans la Bible, comme vous l'avez trouvé vous, un homme d'une valeur inégalée. Quelle grandeur d'âme, Seigneur Jésus, quelle grandeur d'âme. Et pourtant, il était dans l'Ancien Testament, enfin, il était dans le cadre des Évangiles. Il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit, il n'avait pas eu la nouvelle naissance comme vous et moi, il ne parlait pas en langue. C'était Joseph. Dans le respect que je dois à cette assemblée, il avait une fiancée. Il s'appelait Marie, toute petite jeune demoiselle. Puis à ce coup, il a remarqué, ça a qu'on connaît, il a remarqué, non, je ne savais pas parler encore. Ma bonne amie, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a trompé. Ben oui, parce que j'étais en espérance. Seigneur Jésus, c'est une catastrophe ça pour un bon ami, de découvrir sa fiancée comme ça. Mais la Bible déclare, c'était un homme de bien. Il n'a pas voulu la diffamer. Il n'a pas voulu la faire passer devant le conseil. Il n'a pas voulu dire « Regarde, quelqu'un m'a fait !» C'était un homme de bien, un homme d'honneur, un homme de bénédiction. Il a voulu rompre en secret en disant « Si t'arrivera un tort, je ne veux pas être la conséquence de ce tort. Tu rendras compte pour toi. » Il était prêt à rompre en secret. Il n'a même pas voulu raconter parce qu'il s'est cru trompé, hein.
Mes frères et sœurs, il faut se mettre à l'évidence. Il s'est cru trompé, le monsieur. Et comme c'était un homme merveilleusement de bien, le texte dit, il n'a pas voulu la diffamer. C'est le mot calomnier en français, diffamer. Parler dessus, parler contre. Il n'a pas voulu calomnier. Alors il a préféré rompre en secret. Il savait qu'elle allait avoir des conséquences. La loi de Moïse ordonnait la lapidation d'une telle femme, qui aurait trompé même son fiancé, car fiançage égale mariage dans la parole de Dieu Prex, même avant la noce, parce qu'il y avait les fiançailles qui se faisaient officiellement. La lapidation aurait dû être sur Marie. Personne n'avait vu, mais Joseph avait vu. Et dans la nuit, un ange du Seigneur est apparu à Joseph. Et l'ange du Seigneur a dit, ne crains pas Joseph, ne crains pas de prendre pour femme ta fiancée. C'est le Seigneur qui est à l'origine de cela. L'enfant qu'elle porte est né par le Saint-Esprit. Quel bonheur pour Joseph. Alors, il a fait passer l'enfant sous son nom, et c'est pour ça qu'on a cru qu'il était l'enfant de Joseph. Mais il n'a pas voulu la calomnier, il n'a pas voulu la diffamer, et pourtant il était en plein droit, il aurait pu être, avec un caractère un peu expressif. Il a été sage d'attendre, il a été sage de réfléchir, et le Seigneur lui a parlé. Si nous avons une idée de calomnier, si nous avons une pensée contre quelqu'un et que soupçon semble être fondé, il y a la preuve. Je l'ai. Rentre chez toi, prie ton Seigneur, lis ta Bible. Peut-être que Dieu t'enverra Gabriel, ou peut-être que le Seigneur te parlera, et il te dira peut-être autre chose à dire. Il te dira, au lieu de calomnier, va et reprends-le. Va et sauve-le. Tu as sauvé ton frère. C'est pas mieux que vous me sauviez, mes frères? C'est pas mieux que vous me sauviez? Jamais Dieu a dit, écrase-le! Jésus a dit, tends-lui la main. Ça, c'est l'évangile. Je vous l'ai dit 100 fois, ça va être la 101e fois, mais c'est tout. Parce que Seigneur, j'ai peur devant Dieu d'en avoir qu'un souvenir et de ne pas le mettre en pratique. C'est pas un souvenir qu'il faut qu'on aille, c'est de mettre en pratique les mots de Dieu. Dieu nous a parlé à tous ici. Il n'y a pas un homme qui n'a pas reçu un mot de Dieu ici. Il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un pasteur qui ne sait pas ce qu'il faut faire. Somme, c'est pas moi qui vous enseigne ce qu'il faut faire, comprenez-moi bien. Vous savez toutes ces choses avant moi. Les chrétiens ont peut-être besoin d'être enseignés sur les vérités de la Bible. Mes frères, il faut pas que nous vivions ce que nous pensons, parce qu'il y a un contexte comme ça, un contexte comme ça. Moi aussi, en ce cas-là, je pourrais faire comme ça. Moi aussi, je pourrais dire, ah non, ça marche plus. Ben, je suis pas plus, bien sûr, je suis pas moins, je suis un, c'est tout. Avec mes petites joies et puis mes soucis, peut-être plus gros que les autres. Mais je le dis ici, je m'affiche pour la gloire de mon Dieu. Je m'affiche pour l'Assemblée. Je m'affiche, je crois, au nom des pasteurs. Je crois que je peux m'afficher au nom des pasteurs. Et le baron sait que je veux pas tricher devant Jésus. Se tromper, bien oui, ça arrive. Et ça arrive à votre président plus qu'il ne le faut. Se tromper, oui. Mais tricher, non. Parce que tricher, c'est volontaire. Se tromper, c'est manque de connaissance. C'est manque de vision. Tricher, c'est volontaire. Alors on peut se tromper, mais on ne peut pas tricher. Et vous tous, c'est pareil ici, chrétiens. Parce que vous êtes des chrétiens, vous. Comprenez? Il faut qu'on aille plus loin. Faut pas arrêter. Et malheur à celui qui arrêterait. Qui non seulement à lui s'arrêterait, mais qui voudrait arrêter aussi la barque. Il faut plutôt qu'on trouve le remède que de trouver le désastre. Le remède se trouve dans l'amour, dans la vérité, se trouve dans la réprimande, et s'il faut, eh bien il le faut. J'exagère, je ne grossis pas le tableau là, Dieu sait, j'essaye pas de grossir le tableau. Je me vois, je vous vois, je vois ma mission, notre belle Église. Elle appartient pas à un tel, à un tel. C'est à nous tous, ça. La propriété là. C'est à nous tous. La mission dans le monde. C'est aussi à nous tous. Les missionnaires. C'est pas une équipe de fous qui sont gérés par un fou et que tout le monde crie sur eux. Ce sont vos missionnaires à vous. C'est eux qui ont sauvé les âmes qui étaient perdues là-bas. C'est eux qui ont créé les églises, c'est pas vous. Ce sont nos petits missionnaires. c'est peut-être pas des grands champions, mais lorsque vous verrez les églises et les âmes sauvées, lorsque vous verrez les serviteurs de Dieu établis, vous ne crierez pas d'avoir donné vos offrandes. Et vous ne direz pas aux autres, donne plus ton offrande, mon frère. Parce que les âmes sauvées vaut tous vos offrandes que vous avez données. Et ça mérite que vous en donniez encore 4 fois plus pour l'œuvre du Seigneur. Car je pense qu'il faut faire comme ça. Et je rappelle à mes collègues de serviteurs de Dieu que nous sommes en priorité les engagés de cette affaire. Que non seulement c'est un péché devant Dieu de retenir les chrétiens de le faire, un grand péché devant le Seigneur, mais que c'est un péché vous-même de ne pas le faire, de ne pas faire ce qu'il faut faire. Et je vous le dis dans l'esprit de Jésus-Christ, je ne vous le dis pas dans un autre esprit, mes frères. Et je n'ai pas à vous demander pardon. Peut-être que le Seigneur a peut-être voulu que je vous dise ça en plus. En tous les cas, on va terminer avec l'apôtre Paul et une parole du Seigneur. Écoutez, écoutez Jésus. Écoutez Jésus, parce qu'il faut écouter Jésus. Matthieu, chapitre 15. On lit, et puis on va peut-être s'arrêter là, si vous voulez. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à dire. Mais arrêtons-nous avec notre Seigneur. C'est pas la peine d'aller plus loin que lui. Matthieu, chapitre 15. Il y a des dizaines de choses qu'on aurait pu dire encore, mais Matthieu 15, 19 nous suffira. Écoutez, mes frères. Voilà. Alors, on a vu le prophète mettre la calomnie dans le péché, dans la rancune, dans la jalousie, que ce soit l'un ou l'autre des prophètes, c'est Dieu qui parle à travers la voix. On a vu l'apôtre Paul mettre la calomnie dans les péchés flagrants, et que ce n'est pas une banalisation. Écoutez maintenant Jésus, le chef, mon patron, mon maître, devant qui je m'agenouille avec vous ce matin. Écoutez-le en Matthieu 15, verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. C'est grave un meurtre? C'est grave lorsqu'on tue quelqu'un, mes frères? C'est un péché, ça? Vous répondez pas, là? Mais sûr que c'est grave. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Jésus, c'est pas possible que tu peux tenir un langage pareil. Eh bien, Jésus dit oui. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les faux témoignages. Et qu'est-ce qu'il met en liste? Les calomnies. Jésus, t'exagères. Jésus, t'exagères. Tu mets la calomnie avec le meurtre, avec l'adultère. Eh bien, votre Sauveur a mis sur la même liste de péchés les meurtres, les adultères et les calomnies. Parce que pour Jésus, c'est un ravage. Vous comprenez ça, mes frères? Alors ne disons pas, ah, l'adultère c'est grave, et celui-ci mérite d'être enlevé du ministère, ou mérite d'être sanctionné. Jésus dit, il y a la calomnie aussi dans l'équipe là. Et quelqu'un qui fait constamment que calomnier, jaser, parler, détruire, il devrait peut-être aussi rendre des comptes à Dieu, et peut-être aussi voir des conséquences. Alors je dis bien reprendre, c'est notre devoir de serviteur de Dieu, notre devoir de chrétien. Rectifier, c'est notre devoir de chrétien. Et je bénis le Seigneur pour les frères et les sœurs qui sont capables, par l'Esprit de Jésus, de reprendre, d'apporter un mot pour mieux faire. Mais calomnier, non. Quand on connaît dire du mal dans le sens de nuire, c'est votre Sauveur, c'est mon Sauveur. Et je vous dis devant le barreau des évêques, je ne voudrais pas forcer mon Sauveur, que Dieu me garde. Je ne veux pas forcer la lisse, moi. Je ne veux pas essayer de me prendre au piège, ni à vous, ni à moi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce mot-là. On va le relire, puis on va prier. Je voudrais que... Il est 20. Il nous reste 10 minutes avant 11h30 où nous partirons. C'est 10 petites minutes. Peut-être que vous ne parlerez pas. Mettons-nous devant Dieu pendant 10 minutes. Et disons, Seigneur, fais-nous comprendre ce qu'on ne comprend pas. Prouve-nous, donne-nous. C'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les impudicités et aussi les calomnies. Pour Jésus, c'est sur la liste. Pour Paul, c'est sur la liste. Pour les prophètes, c'est sur la liste. Alors il faut balayer les calomnies. Est-ce qu'on refuse l'adultère dans la mission? D'y répondez. Alléluia! Est-ce qu'on refuse les meurtres dans la mission? Alors refusons les calomnies. C'est Jésus qui l'a dit. Et demandons-lui pardon.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.